Bonjour. Vous le savez, nous sommes dans une série où nous parcourons verset par verset toute la deuxième lettre de Paul à Timothée. Et le texte que nous allons voir ce matin, je tiens à être franc, c'est un texte qui nous secoue et qui va parler de quelque chose dont nous avons l'habitude finalement, mais avec un angle particulier que prend l'apôtre Paul, qui va peut-être vous déranger et qui m'a dérangé, et c'est normal parce que c'est le but de l'apôtre Paul. Donc je tenais à vous prévenir que vous ne soyez pas surpris. Pour rappeler là où nous en sommes, au chapitre 1, l'apôtre Paul, qui écrit peut-être sa dernière lettre à Timothée, qui était un jeune responsable d'église, un délégué que Paul avait envoyé, un jeune pasteur dans une église qui rencontrait de grandes difficultés et qui était sur le point d'abandonner. Paul est à la fin de sa vie, il sait qu'il s'attend à la persécution qu'il subit déjà, et il a peur que Timothée, qui est affaibli, qui est contesté dans son église locale, abandonne lui aussi le ministère. Et dans le premier chapitre, vraiment, il l'encourage en lui rappelant l'évangile, en lui rappelant d'où il vient, en lui rappelant la mission que Dieu lui a confiée et en l'encourageant à rester fidèle à l'apôtre Paul et à tous les apôtres et ceux qui sont restés fidèles à Jésus-Christ. Et au chapitre 2, il va commencer donc à lui parler de son rôle d'enseignant dans l'Église en tant que responsable de son ministère, on l'appelle comme ça, et donc son rôle de former, de transmettre à d'autres, et aussi, nous l'avons vu la semaine dernière, tout ce qui concerne les disputes de mots, les gens qui sont là pour créer des problèmes, et Paul lui donne une stratégie en lui disant « ne perds pas ton temps avec ces personnes-là, concentre-toi sur l'enseignement ». Et ce que nous allons voir, cette section de ce matin, est dans la ligne directe. Il poursuit sa pensée, mais avec un angle qui est différent. Et je vous invite donc à prendre dans la deuxième lettre de Paul à Timothée. Nous sommes, pour ceux qui n'ont pas la référence, dans nos Bibles, sur les bancs, à la page 784. Et je vais lire à partir du verset 22 jusqu'à la fin du chapitre. Chapitre 2, verset 22, page 784. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. Là, c'est un rappel à ce que nous avons vu la semaine dernière, c'est sur le site de l'Église si vous voulez l'écouter. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Waouh ! Quel texte ! Ici, l'apôtre Paul explique à Timothée qu'il y a des personnes qui sont des adversaires dans l'Église, des personnes qui faisaient circuler des fausses doctrines. Et l'apôtre Paul lui rappelle finalement en quoi va consister son ministère et quelle est la cause de leur comportement. Mais si nous élargissons au-delà du fait de ces faux docteurs qui sont des adversaires de Dieu, finalement, tous les hommes qui ne sont pas soumis à Dieu, qui ne sont pas repentants, comme nous dit ce texte, sont adversaires de Dieu. Et Timothée devait faire face à lui, dans l'Église, à une réalité, c'est qu'il y avait plein de personnes qui étaient présentes, mais qui demeuraient des adversaires de lui, Timothée, mais au travers de Timothée, des adversaires de Dieu. Des personnes qui ne sont tout simplement pas soumises à Christ, ou dites autrement, au-delà d'être des faux docteurs, des personnes qui ne sont pas converties. C'est-à-dire qui n'appartiennent pas, qui n'ont pas reçu une vie nouvelle en Jésus-Christ, comme il nous l'a été rappelé tout à l'heure encore. Et donc ce que je vous propose, c'est d'aborder ce texte au travers de trois questions. La première, quel est le problème de ceux qui sont les adversaires de Dieu? Quel est leur problème? Deuxième question que nous verrons, c'est quel est notre espoir pour ceux qui sont adversaires de Dieu? Et la troisième, quel est le rôle des serviteurs de Dieu? Élargissons au-delà à Timothée, à nous tous qui voulons servir le Seigneur, quel peut être notre rôle vis-à-vis de ces personnes? Alors, première question, donc, quel est le problème de ceux qui sont les adversaires de Dieu? Regardez avec moi dans le texte comment Paul en parle au verset 25. Paul dit qu'ils ne connaissent pas la vérité. Première façon de les qualifier. Est-ce que Paul suggère ici que ce sont des personnes qui n'ont jamais entendu la vérité, qui n'ont jamais été exposées? Le contexte nous fait dire que non, c'était des personnes qui étaient présentes dans l'Église et qui avaient entendu maintes et maintes fois le message de l'Évangile. Et ces personnes-là qui ne connaissent pas la vérité, Paul veut souligner autre chose, c'est que la connaissance ici n'est pas synonyme d'avoir entendu, mais synonyme d'avoir intégré pour soi par la foi. Et c'est la différence entre connaître des choses sur Dieu, sur l'Évangile, sur Jésus-Christ, et connaître personnellement Dieu ou l'Évangile. Vous savez, nous tous, nous connaissons Emmanuel Macron, et si demain nous allons à l'Élysée et que nous sonnons au portail et que nous disons « Bonjour, nous connaissons, je connais Emmanuel Macron, dites-lui de m'ouvrir », on ne m'ouvrira pas. Je connais des choses sur Emmanuel Macron, mais je ne le connais pas personnellement. Et bien là, c'est un petit peu cette connaissance que la Bible, d'une manière générale, met en avant. La vérité doit aller jusqu'au cœur, à une connaissance personnelle, intime de Dieu. Et la vérité dans la Bible qui est connue, qui est intégrée, est une vérité qui transforme, une vérité qui libère, une vérité qui, tant qu'elle ne nous a pas transformés, est le témoignage que nous ne la connaissons pas encore comme nous devons la connaître. Deuxième qualificatif que Paul leur donne, à la suite, au verset 26, il dit qu'ils ont perdu leur bon sens. Perdre son bon sens, ici, l'expression est synonyme en fait d'avoir perdu le contrôle de soi, comme c'est une allusion à comme s'ils étaient devenus ivres, comme s'ils avaient perdu la sobriété que doit avoir normalement un esprit. Comme si sans Dieu, l'esprit humain naturel était un esprit qui était emprisonné par l'ivresse de ses pensées, sous l'emprise d'un raisonnement qui ne peut pas voir clair, qui voit trouble comme quelqu'un qui a trop bu et qui n'a pas les yeux en face des trous, comme on le dit de façon triviale. Nous avons tous connu cela un jour ou l'autre. Tous les chrétiens ont fait cette expérience-là. Qu'ils ont, et spécialement ceux qui ont grandi dans des familles chrétiennes témoignent de ça. C'est qu'ils ont entendu des vérités encore et encore et encore. Ils les connaissaient. Et il y a un jour où c'est comme s'ils les découvraient pour la première fois et en comprenaient le véritable sens profond pour eux. Et comme si quelque chose, ils étaient revenus à leur bon sens, et comme si d'un coup, ce qu'ils avaient toujours entendu et comprenaient d'une certaine manière, là, ils le comprenaient réellement. Je m'en demandais la dernière fois à un bon ami à moi, avec qui j'ai eu de nombreuses discussions, ce qui l'empêchait de croire à Jésus-Christ. Il m'avait exposé plusieurs oppositions, nous en avons discuté, et à chaque fois, il me disait volontiers, « Oui, c'est vrai, c'est une bonne raison, c'est une bonne explication, il n'y a rien d'illogique ou d'infondé, tout est cohérent, mais je ne sais pas pourquoi, moi je ne peux pas croire. » Je ne peux pas croire. Il n'arrivait pas à sortir de ce raisonnement. Et Paul révèle quelle est la cause de l'emprise d'un raisonnement qui n'arrive pas à comprendre les vérités claires, lumineuses que nous affirme l'Évangile. Il révèle la cause de ce comportement, il dit au verset 26, qu'ils sont sous l'emprise de Satan. Ils sont sous l'emprise de Satan qui les soumet à sa volonté. Étonnant. Quelqu'un qui ne reconnaît pas la vérité de l'Évangile, qui veut la contredire, est quelqu'un, selon l'apôtre Paul, qui est dans les griffes de Satan. On est loin des stéréotypes que l'on a dans les films américains, des films de l'exorcisme ou des films de vampires ou tous ces films-là. Là, tout simplement, quelqu'un qui est sous l'emprise de Satan, c'est quelqu'un qui ne veut pas reconnaître la vérité et qui est incapable de réfléchir avec une intelligence renouvelée face aux Écritures. Et Satan, c'est vrai, et ce texte nous le réaffirme, est bel et bien à l'œuvre dans ce monde. Il est l'influenceur qui tire les ficelles en arrière-plan, un peu comme une sorte de Don Corleone, et vous savez, dans Le Parrain, ce mafieux qui tient tout et qui encourage les hommes à rejeter Dieu et à faire le mal. Être sous son emprise ne signifie pas qu'il pense à notre place, qu'il a pris le contrôle de nos pensées, mais qu'il exerce une influence sur les hommes, qu'il chuchote à leurs oreilles des mensonges à propos de Dieu, comme il l'a fait dès le commencement, dès le livre de la Genèse, auprès d'Ève, afin de douter de Dieu et de ne pas placer son obéissance, sa confiance en lui. Il manipule l'esprit comme le fait un mari tyrannique, pervers, manipulateur, peut le faire auprès d'une femme, d'une épouse, il la maltraite, mais son emprise est telle qu'elle n'arrive pas à se libérer de cette emprise-là. C'est une image pour moi qui me parle, qu'il maintient sous l'emprise. Et Satan est derrière tout mal commis sur terre. Il est derrière la persécution. Il est derrière la division dans les églises. Il est derrière les fausses doctrines. Mais ce sont les hommes qui sont toujours responsables. Mais lui est derrière pour les influencer. Et je crois que ce texte nous invite à sortir des caricatures que nous pouvons avoir à propos de Satan et son œuvre. Penser qu'être sous son emprise se limite à voir une manifestation spectaculaire d'emprise, comme nous le voyons dans les évangiles ou dans les actes, est vraiment simpliste et presque caricatural. Ces manifestations ont bien eu lieu, elles sont réelles. Et Christ a chassé réellement une vraie présence, une vraie influence de démons dans la vie de personnes. Mais se limiter à ces manifestations-là, limiter l'activité de Satan à de telles manifestations spectaculaires, nous donne des œillères et nous empêche de voir une réalité plus globale, plus réelle du combat spirituel. Ici, être sous l'emprise de Satan ne produit aucun comportement de type du film de l'exorciste, de voix qui se transforme, de comportement hors de sens, etc. Ici, être sous l'emprise de Satan, c'est être enfermé dans un mensonge, dans un esprit de contradiction. Et Paul affirme ailleurs, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, que le diable aveugle l'intelligence des hommes, et je vous cite 2 Corinthiens 4, verset 4, « afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Satan veut aveugler les esprits, l'aveugle l'intelligence. Satan fait tout ce qu'il peut pour empêcher les hommes de venir à Jésus-Christ, de venir à la vérité et de se repentir. Il est ivre de haine contre nous et il est bien plus rusé que tous les hommes réunis. Et il sait comment manipuler et il ne se fatigue jamais de nous tenir captifs du mensonge. Voici l'œuvre de Satan. Et la chose la plus méchante qu'il puisse faire, la plus diabolique, la plus perverse, eh bien, c'est de nous empêcher de nous repentir. Il n'y a rien de plus méchant que Satan puisse faire. Et donc, si vous parlez, et ça, c'est quelque chose qui peut nous surprendre, avec quelqu'un qui a entendu l'Évangile, mais qui ne s'est toujours pas remis à Christ, qui ne s'est pas repenti, eh bien, c'est que vous avez toujours quelqu'un qui est dans les griffes de Satan. Voici ce qu'affirme l'apôtre Paul. Et d'autant plus, celles et ceux qui sont militants et qui veulent diviser dans l'Église et qui veulent nourrir l'Église de fausses doctrines. Et alors, quel est notre espoir? Quel devait être l'espoir de Timothée envers celles et ceux qui sont ennemis de Dieu et qui sont sous l'emprise de Satan? Quel espoir avoir pour eux? Regardez ce que le texte nous dit, verset 25. « Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude ?» Alors, je crois qu'il vaut mieux traduire par « Peut-être Dieu leur donnera-t-il la repentance ?» Je vais vous expliquer pourquoi. « Peut-être Dieu leur donnera-t-il la repentance pour connaître la vérité ?» Qu'est-ce que la repentance? Je crois que le mot repentance est plus à même de traduire vraiment le terme original que nous avons là. La repentance est plus qu'un changement d'attitude, un changement d'avis. La repentance est une prise de conscience du caractère horrible du péché, une tristesse et un dégoût du mal pour ce qu'il est devant Dieu qui va nous pousser à vouloir abandonner ce mal-là pour chercher un bonheur supérieur et chercher à adorer Dieu, à placer notre confiance en Dieu plutôt que dans le péché. C'est détester le péché pour ce qu'il est, le mal moral, injustifiable devant Dieu, et désirer que Dieu nous en débarrasse, qu'il nous en lave, qu'il nous en purifie. La repentance signifie rejeter le péché et chercher Dieu. James Packer a cette expression, cette façon de présenter le péché que je trouve assez simple. Il dit « C'est en fait un changement d'état d'esprit très profond et pratique qui fait que l'homme aime ce qu'il détestait autrefois, c'est-à-dire Dieu, alors qu'il le détestait maintenant il aime, et qu'il déteste ce qu'il aimait autrefois, c'est-à-dire son péché. » Autre affirmation, sous-entendue en creux dans ce texte, c'est que l'homme ne peut pas se repentir lui-même. La repentance n'est pas un exercice intellectuel que l'homme peut faire par lui-même. Pas plus qu'un aveugle ne revient à la vue ou qu'un mort ne ressuscite. La repentance nécessite une œuvre surnaturelle, un miracle, une intervention de Dieu dans l'esprit de la personne, dans son intellect et dans son cœur au plus profond de sa volonté. Et l'homme par lui-même ne peut produire cette haine, ce dégoût du mal parce que c'est quelque chose qui est inscrit dans sa nature. Un autre texte parle bien de cela, c'est l'apôtre Paul dans la lettre écrite aux Romains, au chapitre 8, verset 7, il dit « En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. » Et puisque Dieu est la norme de tout ce qui est parfait, puisqu'il est infiniment saint et juste, il ordonne à tous les hommes de se repentir, c'est-à-dire d'arrêter de penser et de commettre ce mal et de le chérir. Dieu demande à tous les hommes du monde de se repentir parce que c'est ce que tout le monde devrait faire. Chacune des personnes sur Terre devrait le faire, indépendamment qu'il en soit capable ou non. Dieu l'exige de la part des hommes parce qu'il déteste le mal qu'ils font. En d'autres termes, ce n'est pas parce que quelqu'un ne sait pas qu'il est mal de mentir ou qu'il est mal de résister à Dieu, qu'il lutte avec le mensonge, que la personne est excusée de son péché. Dieu ordonne à tous de se repentir. Et si Dieu exige la repentance et si l'homme est incapable de se repentir, Dieu exige une repentance que l'homme est incapable de produire lui-même. Quelle espérance pour l'homme ! Eh bien, c'est ce que le texte nous dit, c'est que Dieu accordera peut-être la repentance. La repentance est une grâce que Dieu accorde. C'est Dieu lui-même qui doit mettre en lumière les ténèbres dans le cœur de l'homme, qui doit renouveler l'intelligence pour être capable de comprendre l'Évangile, qui doit renouveler les pensées, le comportement et donner la force de nous rendre capables d'aller nous-mêmes, de saisir notre responsabilité d'aller librement à lui. La repentance est rendue capable par Dieu, pas par l'homme. Et la Bible l'affirme à plusieurs endroits. Lorsque, dans le livre des Actes, les apôtres prêchent et qu'ils entendent qu'il y a des non-juifs qui se convertissent à Jésus-Christ, voici ce qu'ils déclarent, acte 11, verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, écoutez, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux non-juifs, afin qu'ils aient la vie. C'est Dieu qui accorde la repentance, qui, dans sa grâce, donne la repentance pour que l'homme puisse librement prendre sa responsabilité d'aller à Dieu. Et si nous devions nous changer nous-mêmes pour aller à lui, alors ce ne serait pas le salut, ce ne serait pas la grâce, ce serait le mérite à ceux qui sont les plus spirituels parmi nous. Mais Jésus l'affirmait lui aussi, il dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » La repentance est un don de Dieu qu'aucun homme ne mérite de recevoir. Voici l'espoir pour Timothée. Et la repentance implique une responsabilité de l'homme. J'ai commencé par cela, une responsabilité de changer, de rejeter le péché et de se tourner vers Dieu, une volonté de changement. Mais cette décision humaine, Dieu l'exige et la rend possible à certains dans sa grâce. Il n'a aucune dette envers nous, il ne doit pas à un seul homme le devoir de le sauver. Si Dieu accordait la repentance à une personne dans toute l'histoire de l'humanité, ce serait déjà une grâce infinie, parce que cette personne ne la recevrait pas par le mérite, et il faudrait que Christ meure pour elle pour que ce pardon soit possible. Mais vous voyez la grâce de Dieu. Depuis des milliards d'années, il accorde la repentance à des hommes et des femmes sur terre, et encore aujourd'hui, actuellement, dans le monde, et peut-être ici parmi nous, des personnes vont se repentir pour aller librement à Jésus-Christ. Voici l'espoir. La volonté humaine, par ses propres forces, ne peut pas obtenir la grâce ou une quelconque faveur de Dieu, mais Dieu la donne. Mais il y a cet avertissement qui devrait tous nous faire trembler. Paul dit qu'il l'accordera peut-être. Souverainement, c'est Dieu qui décide. Et si vous reconnaissez aujourd'hui que c'est Dieu qui peut accorder cette repentance, si vous reconnaissez que vous avez besoin d'être ce pardon-là, que vous vous reconnaissez en tant qu'adversaire, que vous avez besoin d'être délivré de votre péché, si vous entendez qu'il vous appelle à lui et que vous vous dites eh bien, peut-être que demain j'irai vers lui ou après-demain, où j'ai compris, mais je veux me laisser du temps parce que je veux garder encore ma vie pour moi. Les Écritures nous appellent à nous repentir aujourd'hui, à ne pas attendre. Et qu'est-ce qui nous permet de dire que Dieu peut bien attendre jusqu'à demain et qu'on continue notre vie telle qu'elle est ? Qu'est-ce qui peut permettre à quiconque d'affirmer que Dieu peut bien patienter ? Et quelle assurance on peut avoir que Dieu ne dira pas « Maintenant, ça suffit, je retire ma grâce. » Cette personne s'est obstinée, la porte est fermée. Qui peut dire, avoir l'assurance que Dieu ne le livrera pas à son aveuglement, qu'il ne recevra pas ce qu'il mérite. Qui peut le dire ? La Bible affirme massivement qu'il y a urgence à se tourner vers Jésus-Christ et que Dieu résiste aux humbles, aux orgueilleux, pardon, mais qu'il fait grâce aux humbles. Et j'aime ce texte de Galates, chapitre 6, verset 7, qui nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Et nous avons la certitude que Dieu appelle tous les hommes à se repentir et qu'aucun homme qui se repente et qui se tourne et qui demande pardon à Dieu ne sera rejeté à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et si vous êtes capable de faire cette démarche-là et vous le désirez, c'est que Dieu est déjà en train de vous appeler. Alors ne méprisez pas cela et n'attendez pas. Et pour nous qui sommes chrétiens, je crois qu'il y a aussi un avertissement. Et je dois vous confesser qu'il m'arrive souvent, face à la tentation, d'avoir ce genre de phrase totalement ignoble, de me dire « Allez, c'est pas grave, je laisse tomber, je cède à la tentation, et puis plus tard je me repentirai. Je sais que Dieu me pardonnera. » Mais si Dieu, pour me discipliner, ne me livrait pas aux conséquences de ma désobéissance, comme un père qui discipline son enfant, nous dit l'Épître aux Hébreux. Si, quelle assurance j'ai que Dieu va me donner la force et désirer me détourner si vite de mon péché ? Il n'y a aucune malédiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1, c'est une assurance. Mais Dieu nous discipline comme un père discipline ses enfants. Et quand un enfant s'obstine dans le péché, pourquoi Dieu ne nous livrerait pas aux conséquences de notre péché pour nous faire retenir la leçon ? Et ça, c'est ce que Paul dénonce comme étant un abus de la grâce qui va légitimer un comportement de péché. Et je crois qu'il faut se rappeler que si Dieu nous prive de la repentance, nous ne le produirons pas par nous-mêmes. Et c'est extrêmement présomptueux de croire que c'est nous qui pourrons retourner à Dieu. C'est se détourner, c'est mépriser la grâce. Dernier point de notre texte, quel rôle a Timothée comme serviteur de Dieu et quel rôle avons-nous ? Et je vous invite à relire très rapidement les versets 22 à 25. « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles ne font naître que des conflits. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait de conflits. Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être que Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. » Je m'arrête ici. Comment donc les hommes parviendront-ils à la repentance si Dieu fait grâce ? Mais la grâce de venir à la repentance ne va pas tomber du ciel comme ça. La repentance a pour but de parvenir à la connaissance de la vérité, mais Paul est en train d'expliquer à Timothée quelque chose d'extraordinaire pour lui et d'extraordinaire pour nous aujourd'hui. Dieu donnera la repentance à ses adversaires au travers de l'enseignement de Timothée dans l'Église. Il sera l'instrument que Dieu va utiliser pour changer le cœur des adversaires en frères. Voici ce qui est extraordinaire pour Timothée. Le rôle de Timothée n'est pas simplement de réfuter les faux docteurs et d'essayer de résister. Dieu l'utilisera bien plus que cela. Dieu l'utilise pour secourir les pécheurs qui sont sous l'emprise de Satan. Il sera l'instrument que Dieu va utiliser pour véhiculer sa grâce, pour véhiculer la conviction de péché chez ces personnes-là et les ramener à lui. Par son enseignement, il va confronter les mensonges que croient ces personnes et il va les arracher des griffes de l'ennemi. Il va être cet instrument-là entre les mains de Dieu. Dieu change les cœurs de ses adversaires en utilisant les vérités qu'annoncent ses serviteurs. Et la puissance n'est pas dans le serviteur. Elle est dans la grâce de Dieu. Elle est dans la vérité qui transforme les cœurs. C'est pour cela que ce texte n'est pas valable uniquement pour le ministère de Timothée ou pour celui d'un responsable d'Église. Il est valable pour tout chrétien qui confronte par la Bible et qui amène les vérités de la parole de Dieu avec douceur aux personnes qui ne le connaissent pas. Dieu veut nous utiliser comme ses instruments pour véhiculer sa grâce et amener à la repentance. Dieu seul donne la repentance, mais nous ne devrions jamais en conclure que notre rôle n'est pas essentiel, que nous n'avons rien à faire, que les gens en face de nous sont dans une lutte qui est spirituelle, extérieure à la réalité des relations que nous pouvons avoir. Et lorsque nous ouvrons la Bible avec nos amis, que nous lisons les Écritures ensemble, nous exposons les gens à la puissance de Dieu, à la puissance de la vérité qui peut les conduire au pied du trône de la grâce. L'apôtre Paul s'est attribué les paroles du prophète Ésaïe qui étaient avant tout destinées à Jésus lorsqu'il s'est retrouvé devant la cour romaine. Et voici comment l'apôtre Paul expliquait comment Christ l'avait envoyé. Jésus donc a dit à Paul, « Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec tous les saints, c'est-à-dire avec l'Église, avec tous les chrétiens. » Dieu fait le miracle de sauver des vies simplement lorsque son peuple apporte la parole aux autres. Quel espoir merveilleux, quel appel extraordinaire nous avons. Deux autres réflexions avant d'arriver à la conclusion qui me semble importante encore. Jésus n'a jamais demandé, vous ne trouverez aucun texte qui peut soutenir cela, Jésus n'a jamais demandé à son Église, hormis aux apôtres, de chasser des démons. Vous ne trouverez aucun commandement qui s'adresse à l'Église à ce sujet-là. Les apôtres seuls ont reçu la même autorité de Jésus à cause du rôle unique qu'ils avaient, témoins de la résurrection, qui ont été enseignés directement par Jésus, qui ont eu ce rôle d'ambassadeur, de fondateur de l'Église. Eux se sont vus déléguer une autorité de la part de Christ pour attester que c'était bien eux qui étaient dépositaires de l'enseignement réel, véridique de Jésus-Christ. C'est ce que Paul rappelle au chapitre 1. Mais regardez les apôtres, tout l'enseignement, prenez toutes les lettres que les apôtres ont écrites aux églises. Aucun d'eux ne dit aux chrétiens de faire la même chose qu'eux. Paul ne dit pas à Timothée, il y a des personnes qui sont sous des emprises démoniaques dans l'église, il faut que tu les chasses les démons. Non, Paul lui dit, enseigne-leur la vérité. Confronte-les par la parole de Dieu pour qu'ils puissent revenir à leur bon sens. Reprends avec douceur et enseigne la vérité. Voici la responsabilité de l'Église. Et si ce commandement est donné à Timothée, qui avait quand même reçu un enseignement particulier de l'apôtre Paul, il est d'autant plus vrai pour nous. Et je crois que celles et ceux qui se lancent dans des pratiques qui ne sont pas bibliques, ou qui veulent copier Jésus-Christ qui était unique et qui a eu un ministère et une autorité qui était celle du Fils de Dieu, qui veulent s'octroyer la même et qui, des fois, vont jusqu'à être presque dans une forme de persécution de personnes qui sont déjà affligées sous le poids de leurs péchés, des personnes qui sont dans la maladie et qui arrivent avec des pratiques qui sont même presque violentes dans leur façon de faire, auront des comptes à Dieu parce qu'ils n'auront pas suivi l'enseignement qui leur a été donné par rapport à cela. Notre rôle est un rôle pastoral, c'est-à-dire d'apporter la parole et de prier avec les personnes et de chercher quoi ? Pas une délivrance démoniaque, la repentance que Dieu peut accorder seul. Voici le rôle de l'Église et en particulier des responsables, je crois, d'autant plus pour eux, Parce que Paul le rappelle là, les serviteurs de Dieu, ceux qui sont en responsabilité dans l'Église, doivent enseigner l'Église. C'est leur mission. Autrement dit, c'est la mission, la responsabilité des anciens et de confronter par la prédication, par des entretiens informels avec des personnes, les fausses doctrines, les mauvaises croyances, et d'amener ces personnes-là à la repentance. Mais les membres de l'Église doivent pouvoir aussi compter sur leur secours, sur leur soutien, pour recevoir des conseils, pour savoir comment discuter avec les personnes qui ne croient pas et qui sont perdues, comment les amener à la connaissance de la vérité. Et dernière remarque, l'enseignement que Timothée va devoir apporter, et l'enseignement que nous partageons dans les églises, doit s'incarner dans la vie de celles et ceux qui le partagent, dans la vie de ses serviteurs. Paul souligne une compétence ici, être capable d'enseigner, mais il égrène un nombre de qualités morales importantes que doit avoir un serviteur de Dieu afin de démontrer que l'Évangile est d'abord et avant tout présent en lui et le transforme lui, que lui a bel et bien été libéré des griffes de l'ennemi par la vérité, que la vérité l'a transformé. Et Paul dit ce que Timothée ne doit pas faire, il commence par là, fuir les passions de la jeunesse. Les passions de la jeunesse, est-ce qu'il y a des passions propres à la jeunesse? Et comme si plus tard nous n'en avions plus, certains commentateurs parlent des passions liées à la sexualité. Et je crois que c'est des passions qui peuvent poursuivre un homme ou une femme toute sa vie. Mais ce sont plutôt des passions qui se manifestent chez quelqu'un qui est immature, qui est jeune dans la foi. Et Timothée, à l'époque où Paul lui écrit, a à peu près 35 ans, à peu près mon âge. Donc je m'estime entre les deux, entre la jeunesse et la vieillesse, si vous m'accordez cela. Mais c'est une injonction à fuir un comportement qui est immature, qui n'est pas façonné par la parole de Dieu, à repousser les spéculations. Au verset 23, nous l'avons vu la semaine dernière. Mais il y a des choses qu'il doit rechercher. C'est avant tout, et c'est le premier mot avec lequel l'apôtre Paul le qualifie, c'est de serviteur. Il doit être là pour servir les autres. Il doit chercher à ressembler à Jésus-Christ. Et le terme qui est utilisé peut être traduit tout à fait légitimement par esclave. Face à ceux qui sont esclaves de Satan, lui doit avoir un comportement qui manifeste qu'il est bel et bien esclave de Jésus-Christ, qui a été libéré de Satan et qui vit sous l'autorité du Christ. Et si les adversaires, les esclaves de Satan, ont une attitude violente, médisante, cherchent la dispute, le comportement de Timothée doit être diamétralement opposé. Lui doit chercher la justice, développer des relations imprégnées d'honnêteté, d'intégrité avec les autres dans ses relations. Il ne doit pas louvoyer comme ses faux docteurs ou être manipulateur. Il doit chercher la foi, l'amour, la paix, la bienveillance avec l'Église qui cherche à être pure. Et je crois que ça renvoie à ce que nous avions vu encore la semaine dernière. Et puis enfin, Paul dit qu'il doit reprendre, mais avec douceur. Avec douceur. Timothée devra dénoncer l'erreur et mettre certaines personnes face à leurs responsabilités, mais il devra le faire avec douceur. Avoir raison ne suffit pas. La douceur est indispensable afin de manifester l'amour et la patience de Dieu à l'égard de ces personnes-là. Et la manière de dire une chose, et ça, je crois que c'est essentiel pour nous tous en tant que chrétiens, la manière de dire une chose est aussi importante que la chose que l'on dit. La manière de dire une vérité est aussi importante que la vérité que l'on dit. Le Proverbe 15, verset 1, nous enseigne qu'une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. La douceur n'est pas un trait de personnalité, comme je l'ai cru me concernant pendant longtemps. Je n'avais pas la douceur. D'autres l'ont, mais pas moi. C'est absolument faux. La douceur est le fruit de la présence du Saint-Esprit en nous. Et chacun d'entre nous, nous devons chercher à faire preuve de courage pour confronter à la vérité, mais avec douceur, de sorte que les gens qui sont en face de nous ne peuvent pas nous accuser que nous ne les aimons pas et que nous ne cherchons pas, en leur exposant la vérité, à les détruire, mais au contraire, à les restaurer et à les gagner pour Jésus-Christ, à manifester cet amour-là. La dureté n'est jamais à la gloire de Dieu dans nos relations. Jamais. Est-ce que vous êtes connu pour votre douceur? Je conclus. Dans ce texte, Dieu lui-même nous montre que c'est lui qui change les cœurs de ses adversaires en utilisant ses serviteurs qui vont incarner et annoncer les vérités. La vérité a ceci d'extraordinaire, c'est qu'elle produit une transformation en nous. C'est par la vérité des Écritures que le Saint-Esprit va, auquel le Saint-Esprit va donner vie, va vivifier, va tonifier dans notre cœur, qui vont nous rendre de plus en plus libres. Et alors que j'étudiais ce texte, je repensais tout le temps à ces paroles de Jésus vis-à-vis de ses disciples, où il leur dit, Jean 8, versets 31 et 32, Jésus dit, « Si vous demeurez dans ma parole, dit Jésus, vous êtes vraiment mes disciples. » Et regardez ce qui vient ensuite. « Vous connaîtrez la vérité en demeurant dans ma parole, et la vérité vous rendra libre. » C'est d'être exposé à la vérité des Écritures, de demander à Dieu de produire en nous un cœur tendre, réceptif à sa parole, et de nous convaincre de nos besoins de changer dont nous avons besoin pour grandir dans la foi. C'est ce que le Saint-Esprit fait perpétuellement dans nos vies. Alors en tant qu'Église, veillons à ce que nous soyons toujours conduits par l'Esprit, toujours à l'écoute du Saint-Esprit qui nous convainc de notre péché, il nous dit là, il faut qu'il y ait une repentance. Parce que si nous avons conscience de cette repentance, c'est que Dieu est en train de nous faire une grâce que nous ne méritons pas. Peu importe où nous en sommes, nous devons la saisir maintenant. Maintenant. Ce n'est pas une façon de parler, c'est maintenant que nous devons la saisir. Demain, je ne sais pas, et personne ne peut vous promettre que Dieu vous offrira cette grâce. Amen.